Bonjour la belle-mère, bonjour Rosie, bonjour Jean-Gilbert et aux amis, bon matin Natacha, Indirène et la petite famille. J'espère que vous allez tous très bien. Salut Alex. Tu es rentré de Québec. J'espère que votre séjour là-bas s'est bien passé. Québec, une très jolie ville. Je n'y habiterai pas parce que mon cœur est attaché à Montréal, bien entendu, mais pour y passer quelques week-ends à l'occasion, et on l'a déjà fait avec Daphné, c'était très agréable. Une jolie ville. Bonjour Lucie. Bien bonjour à Lynn si vous lui parlez. Bonjour à mon père et à ma mère. C'est vrai que régulièrement, vous paradez sous la pluie. Là, c'était bien, il y avait soleil, mais pas trop chaud. Donc, les costumes et tout ça, ça ne devait pas être trop pénible, disons. Bien content que tu aies eu du bon temps. Bien heureux, Rosie, que votre épouse soit avec nous. Donc, nous le saluons très chaleureusement. Bienvenue parmi nous, André. Que Dieu vous bénisse. On a encore pour environ 7 ou 8 minutes avant qu'on commence. Vous savez qu'on se connecte toujours un peu plus tôt, tout simplement pour permettre aux gens de se saluer, de fraterniser un peu. Avec toute cette saison de COVID. Et puis ça permet aussi à Néma de venir vous saluer.
Oui, tu me regardes.
Notre petite Néma qui va nous faire sauter une séance la semaine prochaine. Mercredi, à la même heure la semaine prochaine, je dois l'amener chez le vétérinaire pour une petite opération. Une masse qui est apparue sur une patte et qui la gêne, donc on doit enlever ça.
Ouais.
Shalom, shalom, la belle-mère. Bon matin, Denise. Soyez bénis. Je transmettrai vos salutations à Néma, Rosie. Là, Néma doit aller boire. Bonjour Denise, bonjour Gérard. Ma belle-mère, aujourd'hui c'est encore correct. Les conditions de route sont encore correctes. C'est demain, je crois, qu'il prévoit de la pluie verglaçante. Donc les trottoirs. Les artères devraient être un peu compliquées, possiblement demain. Tenemos el pastor Guerrero con nosotros, que Dios me lo bendiga, hermano, que nos está mirando desde Panamá. Alors, on a le pastor Guerrero avec nous ce matin, qui nous regarde depuis le Panama. Nuestra enseñanza de hoy será en francés, pero somos muy gozos de tenerle con nosotros. Que Dios le siga bendiciéndole en Panamá. Bonjour à Marie-Marthe. Bonjour à Thérèse. Bonjour Sylvie. Bonjour Guy. Sois béni toi aussi. Alors aujourd'hui, on continue toujours notre étude sur la résurrection dans le passage de Jean 11 du verset 20 à 27. On étudie aujourd'hui la deuxième section du verset 25. Donc, si vous voulez déjà ouvrir vos Bibles, vous pouvez noter la page dans Jean au chapitre 11, les versets 20 à 27. Bonjour Rachel, que Dieu te bénisse. Bonjour aux sœurs qui sont connectées avec toi. La sœur Mona, la sœur Chantal, la sœur Auxilia. Nous les bénissons. Marie-André, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Et puis, bien entendu, un gros bonjour et une belle accolade à notre ami Farley. Myriam, Donald, bonjour. Alors, à Ottawa, est-ce qu'il y a de la neige ou pas encore? Myriam et Donald nous suivent depuis Ottawa. Merci, Marie-André. Il me semble qu'Ottawa est un peu plus au sud que Montréal, donc logiquement, il ne devrait pas y avoir de neige non plus. Par contre, chez Denise et Gérard, assurément, le tapis est blanc. Merci Marie-André. J'ai déjà des amis dans la région de Québec et ils me disent que là-bas c'est bien tombé. Il y a quand même eu un peu de neige là. Hello Sylvia, God bless you, sois béni. And greetings to Pastor David also. On va prier pour débuter ce matin. Merci Seigneur pour cette autre belle occasion que tu nous donnes de sonder tes écritures, d'entendre ta parole. et de la recevoir comme étant un présent, un cadeau que tu nous as adressé de toute éternité. Tu savais que nous serions réunis ce matin. Tu savais qui entendrait les mots qui seraient prononcés ce matin et tu avais les paroles, le message tout particulier pour chacun d'entre nous. Je prie, Seigneur, que cette parole trouve une bonne terre dans laquelle elle peut s'implanter, s'enraciner, croître et porter un fruit qui t'est agréable. Non seulement durant notre vie charnelle, physique, mais aussi, Seigneur, durant pour l'éternité. Alors, j'appelle ta grâce, j'appelle ta bénédiction. J'appelle, Seigneur, une inspiration de ta part pour nous tous, afin que nous puissions saisir, comprendre, faire nôtre ces promesses, ces avertissements, ces conseils, ces préceptes que tu nous accordes encore aujourd'hui. Alors, en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi, nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alors, encore une fois, bienvenue à tous à cette bénédiction matinale du mardi 16 novembre, j'allais dire décembre, on n'est pas encore là, 16 novembre. Et puis, donc, on étudie cette semaine le thème de la résurrection de Jésus, quelles en sont ses conséquences, ses incidences sur nous, qu'est-ce que ça provoque dans la vie du croyant. On a vu il y a quelques semaines l'importance de la prédication de la résurrection. Je reviendrai un peu sur ce qu'on a vu hier et ce qu'on a vu donc il y a quelques semaines. La résurrection est importante et elle doit être enseignée et prêchée parce que c'est ce qui marque le point essentiel du salut. Prêcher le salut par la mort de Jésus est insuffisant. On devrait prêcher la mort et la résurrection de Jésus. Parce que la mort, c'est simplement le prix payé par Jésus pour absoudre nos fautes. La résurrection est la marque, le sceau de victoire, le sceau de paiement et de dette effacée à travers sa résurrection. Donc, s'il n'y avait eu que la mort de Jésus, ça aurait été un grand malheur, dans le sens où il est le sauveur, il est le Messie, et il était juste en toute chose lorsqu'il a été arrêté, mis à mort. Donc, ça aurait été un grand malheur. Mais plus grave encore s'il n'était pas ressuscité. Tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, tout ce que nous tentons de faire pour l'œuvre de Dieu, notre dévouement à étudier sa parole, notre dévouement à être attaché à lui serait vain parce que la victoire sur le péché, sur la mort et sur les conséquences du péché n'aurait pas été dûment accomplie. Donc aujourd'hui, on parle de la résurrection et de cette victoire que Jésus a remportée pour chacun d'entre nous, du moins pour le pécheur qui se repent de ses fautes, de son péché, et qui confie à Jésus, qui confie à Dieu le restant de son existence. Que ce soit une existence où il ne reste peu de temps qu'une existence où il reste des années, voire des décennies. Lorsque nous donnons notre existence à Jésus, nous lui disons « Sois le sauveur de ma vie, donc pardonne mes péchés, sauve-moi d'une condamnation éternelle à passer hors de la présence de Dieu. » Mais de surcroît à ça, on lui dit aussi « Et le restant du temps qui me reste, c'est redondant et je m'en excuse, mais le restant du temps que j'ai devant moi jusqu'à ce que je passe dans l'éternité, que cette vie que tu m'accordes soit passé sous la directive, sous l'autorité et sous le conseil de ta personne. » Alors voilà. Et aujourd'hui, donc, on reprend le texte dans Jean 11, le verset 20 à 27, et on va s'arrêter dans la deuxième phrase du verset 25, mais je relis par contre tout le texte pour vous. Alors, c'est cet endroit où Jésus va aller ressusciter Lazare après sa mort. Et c'est la conversation qui précède la résurrection lorsque Jésus s'adresse à une des sœurs de Lazare, donc Marthe. Au verset 20, la Bible nous dit: lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et elle lui dit: oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Je reprends le verset 25. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? La phrase importante pour moi aujourd'hui: celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Dans une version plus courante, on pourrait dire: celui qui croit en moi vivra bien qu'il serait mort. Alors on va diviser cette courte phrase en trois sections et on va changer un peu l'ordre dans lequel ce texte nous est présenté. Ici, le texte nous est présenté d'abord: celui qui croit. Alors, celui qui croit vivra en deuxième, et en troisième, même s'il est mort. Aujourd'hui, on va plutôt faire: celui qui croit en moi, même s'il serait mort, même s'il était mort, il vivra. C'est comme ça qu'on va échelonner notre intervention ce matin. Celui qui croit. Croit est un terme très usuel pour nous tous. On l'utilise. On croit une chose, on croit en un parti, on a une opinion sur une chose et là on l'émet, on émet une croyance, on émet une chose, une idée qui nous habite. Mais croire va plus loin que ça. En fait, le verbe croire en grec, et je rappelle que le Nouveau Testament, les manuscrits qu'on a sont essentiellement en grec. Donc, croire en grec, c'est le même terme qu'avoir la foi. La foi, c'est pistis. Et le verbe croire, donc un verbe, un mot dans la même famille, c'est pisteio. Pisteio. Donc, P-I-S-T-E-U-O. Je répète pour ceux qui prennent des notes, et on sait que vous êtes plusieurs à le faire. Pisteio. Donc, P-I-S-T-E-U-O, qui veut dire être persuadé d'une chose et mettre sa confiance en une chose ou en une personne. Être persuadé d'une personne ou d'une chose et mettre sa confiance en une personne et une chose. Alors ici, lorsqu'on parle de celui qui croit, c'est celui qui est persuadé par Dieu. Et ici, rappelons-nous, c'est Jésus qui parle. Et Jésus qui dit: je suis la résurrection et la vie. Et à la fin de sa conversation avec Marthe, ou suite à l'énoncé qu'il fait: je suis la résurrection et la vie, Jésus va demander à Marthe: crois-tu cela? Et le crois-tu, c'est pas simplement: es-tu enclin à cela? Es-tu favorable à cela? Es-tu partiellement d'accord avec mon énoncé? Non, ici, le terme qui est utilisé, c'est ce même terme où dans Hébreux au chapitre 11 et dans les premiers versets, on va nous dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Donc une ferme assurance, même des choses que je ne suis pas capable de voir devant moi. Une ferme assurance est la conviction des choses à venir. Et lorsqu'on parle d'une conviction, on parle de quelque chose qui est viscéral. En bon français, une croyance qu'on a du plus profond de notre tréfonds ou du plus profond de nos tripes. Voilà comment on croit en Jésus. On ne peut pas faire une tentative auprès de Jésus. Je sais Jésus et si ça ne fonctionne pas, je passerai à autre chose. Je tente pour voir comment ça se passe avec Jésus, puis éventuellement, je prendrai une décision. Croire ici amène ou intègre la notion d'être persuadé par Dieu. Tu ne peux pas croire à moitié. Ici, on ne parle pas de penser, d'espérer, de souhaiter que. On parle d'avoir la ferme conviction qui est placée en Dieu et en sa parole. Et la question pour toi et pour moi, est-ce que tu crois? Est-ce que je crois? Être dans cet état où nous sommes persuadés de Dieu veut aussi dire mettre sa totale confiance en Dieu. Savoir qu'il a fait ce qui devait être fait, qu'il est ressuscité, qu'il a effectivement vaincu la mort, le péché et les conséquences du péché, et lui faire confiance donc que l'éternité vers laquelle on chemine est totalement, pleinement sous son contrôle. Lui faire confiance pour la vie que nous lui donnons, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. Lui faire confiance avec la vie, notre existence, que nous remettons entre ses mains pour qu'il nous guide, pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous utilise à sa gloire. Avoir cette totale persuasion que Dieu fait bien les choses, que ce qu'il fait est au-delà du bien, c'est parfait et excellent. Faire confiance à Dieu sur sa provision, sur sa fidélité et sur la perfection de ses décisions. Crois-tu? C'est la première question pour toi et pour moi ce matin. Est-ce que nous croyons réellement? Est-ce que nous croyons quand bien même nous serions morts? Ici, l'expression « quand il serait mort », c'est le terme grec « apotnesco », donc apotnesco. J'appelle encore une fois apotnesco, apotnesco, qui veut dire mourir, trépasser, périr ou être mis à mort. Je répète pour que vous compreniez le sens. Mourir, trépasser, périr, être mis à mort. Je fais la différence entre être mort, avoir trépassé, avoir péri ou avoir été mis à mort. On parle ici du fait de s'approcher de la mort, du processus qui nous mène à la mort. Le mot apotnesco ne parle pas d'une mort qui est déjà consommée, mais nous parle de ce processus, de ce chemin qui nous mène jusqu'à la mort. Et il y a trois pensées dans les déclinaisons qu'apotnesco va élever. Premièrement, c'est ce processus de mort qui est en cours, l'agonie. Je dis parfois que nous sommes tous en train de mourir depuis le premier jour de notre naissance. En fait, assurément, ce n'est pas scientifiquement vrai, puisque pendant un certain temps, on a une croissance jusqu'à ce que on atteigne le sommet de notre vie, puis on a une décroissance qui nous amène jusqu'à nos derniers instants vers l'éternité. Donc oui, pendant un certain temps, on n'est pas nécessairement en train physiquement de se diriger vers la mort. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'à chaque jour, on est une journée plus proche de notre de la fin de la clepsydre. On est un jour plus proche à chaque jour de ce rendez-vous avec Dieu et avec l'éternité. Et ici, ce qui nous est amené, c'est être parmi ceux qui croient, parmi ceux qui sont persuadés, parmi ceux qui ont mis totalement leur confiance à Dieu, même lorsqu'on est dans le chemin qui nous mène jusqu'à la mort. Je suis passé moi-même par la maladie. J'ai été confronté moi-même avec la possibilité d'une mort beaucoup plus hâtive que je ne l'aurais imaginé. Et voilà pourquoi le matin suivant le diagnostic du cancer, j'ai fait cette courte prière en disant à Dieu, « Seigneur, tout est correct, tout est OK. Que tu me gardes ici-bas ou que tu m'amènes près de toi, c'est correct. Je te fais confiance. » Et c'est ça que Jean est en train de mentionner ou que Jésus est en train de dire à Marthe. Est-ce que tu continues à croire même lorsque tu frôles, même lorsque tu chemines avec la mort? Certaines personnes, lorsque la mort s'approche, s'éloignent de Dieu en fait. Frustration par rapport à une vie qu'ils croient trop courte, peur de l'éternité, remise en question spirituelle. Certains autres, ayant frôlé la mort avec quelqu'un, un proche étant parti dans l'éternité, certains ne font plus confiance à Dieu, comme si Dieu avait été mauvais, méchant, de reprendre leur bien-aimé au lieu de l'amener avec lui dans l'éternité. Par rapport à notre processus personnel ou par rapport au deuil qu'on peut vivre du départ de quelqu'un, est-ce que nous croyons? Est-ce que nous continuons à être persuadés et à mettre notre totale confiance à Dieu? On nous dit non seulement cette mort dans laquelle on est dans le processus, mais on nous parle aussi du fait de périr. Et périr, c'est différent de mourir. Périr, il y a cette notion du malheur qui est hors de notre contrôle. Que ce soit par un accident, que ce soit par une maladie, c'est comme s'il y a quelque chose de navrant qui se passe dans cette mort. C'est pas la douce mort calme, dans mon sommeil, je suis parti. Non, il y a ce chemin douloureux qu'on voit et qu'on subit sans qu'on soit capable de le contourner ou de le ralentir, voire de changer l'itinéraire. Est-ce que je continue à croire? Est-ce que je continue à être confiant en Dieu, même lorsque le malheur vient frapper? Dans le tel cas, on a des frères, des sœurs, qui, à l'occasion, ont perdu un bien-aimé dans un grave accident. Eux-mêmes ont été frappés peut-être par un accident. J'ai mon témoignage avec la maladie, mais un de mes plus proches frères dans la foi, collaborateur en tant que pasteur, un de mes plus proches amis, a subi, il était en France, il était pasteur en France à l'époque, a subi un grave accident d'auto. Et il est resté pendant des minutes et des minutes et des minutes coincé sous la voiture, les secouristes ayant peur que en déplaçant la voiture, qu'il viendrait tout simplement à mourir. Il pensait vraiment que c'était la dernière journée. Et lui-même a cru que c'était sa dernière journée. Il a eu cette prière de remettre sa vie entre les mains de Dieu. Quand tu vois le malheur foncer sur toi, est-ce que tu fais encore confiance à Dieu en lui disant, « Seigneur, quoi qu'il arrive, je te fais confiance. Quoi qu'il arrive, je suis persuadé que ce que tu fais est bon. » La mort qui vient, le malheur qui frappe, et dans le pire des cas, il y a aussi le fait d'être mis à mort. Et là encore, on a des frères et des sœurs qui, dans certaines contrées, dans certains pays, font face à la mort. sont confrontés avec la mort de par la foi qu'ils ont. De par la foi qu'ils ont, ils peuvent être mis à mort parce qu'ils ont abandonné une foi précédente pour se tourner vers Jésus. Et face à de tels cas, si c'était nous, quelle serait notre réaction? Si nous étions de ces frères et de ces sœurs qui vivent dans des contrées où la persécution existe, quelle serait notre réaction? Et Jésus parle ainsi à Marthe en utilisant ce terme apotnesco parce qu'il sait que l'Église qui allait lire ce texte plus tard dans certains pays serait confrontée avec cette mort qui n'est pas cette mort normale vers laquelle on chemine, qui n'est pas le malheur d'un accident ou d'une maladie qui vient nous frapper de façon impromptue, mais qui est la menace d'une mise à mort à cause de notre adhésion à Christ et à cause de notre appartenance au peuple de Dieu. Jésus dit que celui qui croit, même lorsqu'il est dans le processus de l'agonie, même lorsqu'il est dans le processus où il est confronté à un malheur hors de son contrôle, même lorsqu'il est sujet au martyre et à la persécution, Jésus va dire, un tel croyant continue à vivre. Est-ce que Jésus peut dire la même chose de toi et de moi aujourd'hui? Lorsqu'il regarde notre cheminement, peut-être qu'on est frappé par la maladie, peut-être qu'on est frappé par un deuil, peut-être qu'on est frappé par une situation complexe, peut-être qu'on est frappé par une persécution, une tribulation quelconque. Est-ce que Jésus peut dire que nous vivrons? Et ici, le terme « vivre » encore, oui, c'est le terme « zao » qu'on a étudié à plusieurs reprises, mais « zao » veut dire « qui respire », qui est actif, qui est frais, qui est efficace et efficient et qui est puissant. En fait, Jésus est en train de dire que celui qui croit vraiment, celui qui a placé toute sa confiance en Dieu et qui est persuadé par Dieu, quand bien même il serait à l'agonie, quand bien même il serait dans le malheur, quand bien même il serait dans la persécution, il continuerait à respirer, à être actif, à être efficace et même à être puissant. Il y a des gens qui meurent avant leur mort. Il y a des gens qui tombent dans le deuil et à partir du moment où ils tombent dans leur deuil, leur vie est finie. Ce n'est pas la façon de vivre pour Jésus. Il y a des gens qui reçoivent une menace et avant même que la menace ne soit accomplie, qu'elle ne soit exécutée, eux sont déjà morts. Et ce n'est pas une question d'être mort à soi-même, ce n'est pas une question de se préparer à toute éventualité. Non, c'est une question qu'ils ont capitulé, abandonné et que le temps qu'il leur reste encore à vivre n'est plus profitable ni pour eux, ni pour Dieu. Il y a des gens qui peuvent vivre ainsi pendant des années, voire même des décennies. Dieu enlève un proche, un bien-aimé, et à partir de ce moment, ils perdent tout goût à la vie. Et je comprends qu'un deuil doit se passer, et que de dire combien de temps ça doit durer pour une personne ou une autre, ça varie. Mais à un moment donné, il nous faut revenir à ce qui est le fondement de notre vie. Et le fondement de notre vie était-elle la personne qui est partie? Ou Christ, qui est le souffle de vie pour nous et qui nous maintient encore aujourd'hui en vie? Sur quoi est basée notre vie? Notre vie est-elle basée sur les gens qui nous entourent et s'ils ne sont plus là, je suis moi-même mort? Ou notre vie est-elle réellement, totalement fondée sur Christ? Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Marthe, qui était dans le deuil, qui souffrait la perte de son frère, que celui qui croit, même lorsqu'il est entouré de la mort, même lorsqu'il chemine vers une mort imminente, il continue à vivre. Et en étant vivant, il respire. En étant vivant, il est actif. En étant vivant, il est efficace. Et en étant vivant, il est puissant. Quelle est notre réaction par rapport au malheur qui peut nous affliger? Quelle est notre réaction par rapport à l'inévitable rendez-vous qu'on aura avec la mort, à moins que Jésus ne vienne chercher son Église d'ici là? Moi qui chemine quotidiennement vers la mort, quelle est mon attitude? Suis-je vraiment quelqu'un qui est convaincu, persuadé et qui vit, sachant que la mort n'est qu'une étape vers l'au-delà, mais que d'ici cette étape, je continue à devoir être actif, efficace et puissant. Pour qui? Pas pour moi, pas pour ma propre personne, mais pour Christ, parce que j'ai été créé par lui et pour lui. La Bible nous dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Ça inclut ta personne et ma personne. Ça veut dire que la vie de laquelle je profite aujourd'hui m'a été donnée, non pas pour moi, mais pour lui. Peut-être te reste-t-il quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, quelques décennies. Peu importe. Peut-être que c'est la première fois que tu entends un tel message. Mais tu ne pourras jamais dire que tu ne l'as plus entendu, que tu ne l'avais pas entendu. À partir d'aujourd'hui, tu sais que le restant de ta vie doit être vécu pour Christ, comme quelqu'un qui est totalement confiant en Christ, comme quelqu'un qui est totalement persuadé de Christ et qui vit afin d'être actif pour Christ, afin d'être efficace pour Christ et afin d'être puissant pour Christ. Quel est le lien avec la résurrection? Si Jésus n'était pas ressuscité, tout ce qui a été annoncé à son sujet et tout ce qu'il a lui-même annoncé et tout ce qu'il a prêché ne servirait de rien. Et on l'avait vu lors de notre semaine où on a parlé de l'importance de la prédication de la résurrection. La résurrection de Christ vient mettre un sceau sur tout ce qui avait été dit à son sujet et sur toute la puissance de laquelle on le décrivait. Il est totalement qui il dit qu'il est et qui on a annoncé qu'il est parce qu'il a scellé sa victoire à travers la résurrection des morts. Et aujourd'hui, es-tu convaincu du ressuscité? Es-tu convaincu de Christ mort et ressuscité pour le salut de l'humanité? Si tu es convaincu qu'il est la seule source de salut, si tu es convaincu qu'il est Dieu fait homme et qui s'est donné pour ton salut, le restant de ton existence devrait alors être vécu avec cette persuasion profonde, avec cette croyance viscérale, comme quoi tu as un rendez-vous avec Christ et tu veux bien préparer ce rendez-vous. La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Chacun d'entre nous avons à faire cet exercice de nous préparer à rencontrer Dieu et de le faire en lui confiant le nombre de jours qui nous restent et en menant ces journées-là en étant actif pour lui, en étant efficace pour son royaume et en étant des outils entre ses mains pour faire avancer sa cause. Alors voilà ce que nous avions ce matin. Permettez-moi de prier avec vous. Et comme hier, on parle de la résurrection, donc on doit parler du salut. Je vous invite à faire cette courte prière avec moi. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de prier. Ma prière ne se veut pas autre chose que tout simplement une aide pour vous, un petit coup de pouce pour parler à Dieu avec des mots simples. Alors, si vous voulez la faire, vous pouvez répéter ces phrases après moi. Seigneur, me voici. J'ai entendu ta parole. Et je sais que je chemine vers l'éternité. Je sais que mon corps devra passer par la mort. Mais le restant des jours que j'ai devant moi, je veux les vivre comme celui qui a cru, comme celui qui a été persuadé et comme celui qui a mis toute sa confiance en Christ, le Sauveur et le Seigneur du monde, mon Sauveur et mon Seigneur. Je veux vivre le temps qu'il me reste voué à ta cause. Je veux marcher sur le chemin de la vie en faisant honneur à mon Seigneur et à mon Sauveur. Qu'il me reste quelques heures, quelques jours, quelques temps, quelques décennies, je veux m'engager à marcher pour Jésus, à faire tout ce que je pourrais faire pour Jésus, afin que le jour où je passerai dans l'éternité, je puisse entendre la voix de mon Seigneur qui m'accueille avec ces mots si doux. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Jésus, je veux entendre ces paroles de ta bouche lorsque je viendrai à toi. Alors d'ici là, je veux marcher, je veux vivre ma vie d'une façon qui t'est agréable, en laquelle tu prends plaisir. Une vie à laquelle tu m'as appelé et une vie que tu approuves. J'ai prié dans le précieux, le glorieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Encore une fois, j'ai été content d'être avec vous aujourd'hui. On se retrouve demain. On vous rappelle, ce soir, c'est mardi. Pour tous ceux qui voudraient se rendre à l'église, le pasteur André donne son cours pour les nouveaux, les fondements chrétiens. Donc, ceux qui voudraient être à l'église ce soir, ce n'est pas diffusé sur Internet. C'est strictement en présentiel. Donc, si vous voulez vous joindre à eux, c'est à partir de 19h ce soir. À l'église. Sinon, on se retrouve demain pour notre prochaine bénédiction matinale. On vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire pour assister en présentiel à l'assemblée de dimanche. On espère que vous serez nombreux à vous inscrire. Et puis, voilà. Donc, on se retrouve demain. Deux rendez-vous demain. À 8h30 demain matin pour notre bénédiction matinale et pour l'étude biblique, bien sûr, à 19h aussi. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Au revoir.